les élèves de 3e G du Collège Sainte-Thérèse reçoivent Jérôme Leroy.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission dans le cadre du prix Thème Lire, créé par les élèves de 3e G du Collège Sainte-Thérèse. Nous sommes vos animateurs pour cette émission, je me présente, je suis Maxence, accompagné de Dara.
Merci Maxence, bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Jérôme Leroy, auteur du livre qui s'intitule « Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne ». Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous.
Bonjour Maxence, bonjour Dara et bonjour à toute la classe.
Votre livre a été publié en 2023 et il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire 2024. Nous avons travaillé sur votre livre en classe.
Dans un premier temps, nos camarades vous poseront quelques questions à propos de votre livre. Ensuite, nous nous intéresserons à votre vie d'auteur, puis ce que vous envisagerez pour votre vie d'écrivain. Ensuite, nous vous ferons écouter quelques chroniques réalisées par les élèves.
Quentin, c'est à toi pour la première question.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots de quoi parlait votre livre ?
C'est toujours difficile pour un auteur de raconter son livre. C'est pour ça qu'il y a des éditeurs d'ailleurs qui écrivent le texte sur la quatrième de couverture. Pour aller vite, Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne, c'est l'histoire d'une société qui se construit après une catastrophe, et c'est-à-dire qui a l'air au début d'être une utopie et qui redevient une dystopie. Et on voit cette dégradation se faire à travers le personnage de Jason d'une part, enfin d'Ada d'une part et de Jason d'autre part. Et c'est à travers des gens qui donc ont à peu près votre âge que j'ai voulu montrer comment une utopie peut dégénérer.
Et de quelles œuvres littéraires êtes-vous inspiré pour créer ce livre ?
Je ne suis pas à écrire des dystopies et je ne suis pas non plus le dernier, mais moi, il y a un livre qui m'a énormément marqué quand j'avais à peu près votre âge, qui était 1984 de George Orwell, qui est peut-être la première des grandes dystopies. Il y a aussi Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et puis même un livre un peu moins connu, mais qui est très fort aussi sur cette idée, c'est Nous autres de Zamiatine. C'est-à-dire qu'au début, ce sont des sociétés qui se présentent comme idéales et qui en fait deviennent, sans même s'en rendre compte, des sociétés totalitaires.
Et maintenant, nous vous proposons une chronique sur le récit du roman.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la fille qui ne voulait tuer personne, de Jérôme Leroy. La science-fiction se manifeste par un univers dystopique où la protagoniste est omniprésente.
La protagoniste, qui refuse de tuer, représentait un idéal de paix dans ce monde troublé. Le récit explore des thèmes comme les dilemmes moraux et la nature humaine.
Tout en intégrant des éléments futuristes et des technologies avancées qui interrogent notre réalité actuelle et les conséquences de nos choix.
Bonjour, pourquoi avez-vous choisi Ada, une jeune fille, dans le rôle principal ? Qu'a-t-elle de particulier ?
J'ai choisi une jeune fille dans le rôle principal parce que j'avais envie d'un personnage qui soit convaincu par le système dans lequel elle vit, par cette fédération européenne, par cette alliance du vivant, et qui finalement soit, elle est pionnière dans le roman, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'une organisation de jeunesse et qui est tout à fait d'accord avec le pouvoir. Et la choisir, elle, c'était aussi choisir parce que c'est aussi à l'âge où finalement tout se bouleverse un peu dans une vie quand on a aux alentours de 17 ans, c'est-à-dire à la fois son rapport à ses parents, son rapport à sa mère en particulier, son rapport à l'amour, son rapport à l'école et évidemment son rapport à l'ensemble d'une société qu'elle croit être très bonne.
Pourquoi avez-vous choisi cette époque pour l'histoire ?
Alors ça, ces années-là, j'ai choisi parce que vous êtes, par exemple, vous avez quel âge ?
J'ai 15 ans.
Vous avez 15 ans ?
Oui.
Donc, calculez quel âge vous aurez au moment où, par exemple, au moment de la décennie terrible. Vous vous souvenez de la décennie terrible dans le roman ?
La
décennie terrible, elle commence dans les années 2030, ouais. C'est très bientôt. C'est-à-dire que pour aller vite, j'ai choisi cette période parce que tous ceux qui sont dans cette salle seront à ce moment-là des adultes, des parents, Et tandis que moi, sauf progrès extraordinaire de la médecine, au moment où commence le roman, il y a de fortes chances que je ne sois plus là. Mais vous, en revanche, c'est un monde dans lequel vous pourriez très bien vivre. Vous pourriez, je n'ai pas dit vous pourrez, hein. Vous pourriez très bien vivre. Et voilà pourquoi j'ai choisi ces dates-là, en fait. Et en général, plus généralement, dans d'autres dystopies que j'ai pu écrire ou d'autres histoires, en tout cas, qui se passent dans un futur proche. Enfin, ce futur reste proche parce que j'ai envie que, d'une certaine manière, vous vous sentiez aussi concerné si vous faites le calcul entre votre âge maintenant et l'âge que vous aurez au moment où se déroulera l'histoire.
Nous allons découvrir un petit peu plus sur le personnage d'Ada qui nous a été présenté par Inès.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage du livre de Jérôme Leroy, la fille qui ne voulait tuer personne.
Ada. Ada est une jeune fille de 17 ans, c'est une pionnière qui est au lycée. Sa mère s'appelle Clara Vinn, elle est chef de la France et vice-présidente de l'Europe. En octobre 2069, elle apprend qu'elle devra exécuter le criminel Karl De Wolder, qui a été jugé coupable. Ada ne s'imagine pas tuer quelqu'un. Et vous, que feriez-vous dans cette situation? Ada, elle, est sortie toute seule de chez elle sans même regarder les messages sur sa Secure Watch. Alors, c'est quoi une Secure Watch en fait? À quoi ça sert exactement?
Alors en gros, une Secure Watch est comme une montre connectée, elle permet d'appeler, de communiquer. Quelques jours plus tard, Ada se lève et se dit « Je ne tuerai pas cet homme car je ne veux pas le faire ». Jason, qui l'accompagne depuis le début, est d'accord avec son choix et la suivra jusqu'à la fin de l'aventure. Après plusieurs rapports, ils se sont mis ensemble.
Comme Jason savait que le Portugal était un pays libre, il lui proposa d'y aller. Ada accepta cette proposition. Et vous, changeriez-vous de vie du jour au lendemain en laissant toute votre vie derrière vous? Moi, je ne le ferai pas. Pour pouvoir accéder à ce pays, Ada et Jason devront parcourir des dizaines de kilomètres. Vont-ils y arriver? Pour le savoir, il faut continuer le livre.
Nous sommes de retour en studio. Bonjour Monsieur Leroy, pourquoi Bonjour. Avoir choisi ces thèmes politiques?
Alors pourquoi j'ai choisi ces thèmes politiques? En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai voulu montrer plusieurs choses. Ben, comme ça a été dit dans la chronique que je viens d'entendre, effectivement, c'est une société qui a changé. Vous parlez de la Secure Watch, par exemple. La Secure Watch, ce qui est intéressant, mais déjà, c'est vrai que c'est une montre connectée améliorée, mais ça sert autant à communiquer qu'à, par exemple, se déplacer, mais ça, c'est aussi quelque chose qui permet de vous géolocaliser. Donc en fait, j'ai choisi ces thèmes-là parce que j'ai l'impression que ce qui se passe déjà aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, c'est finalement, si rien ne change, on peut très bien imaginer que la technologie ne soit plus quelque chose qui soit à notre service, mais que ce soyons nous qui nous retrouvions au service de la technologie. Et on est en train de se reposer le problème de manière très aiguë en ce moment, avec, vous avez dû en entendre parler, mais avec l'intelligence artificielle.
Merci pour votre réponse.
Découvrons un autre personnage tout aussi important, Jason.
Aujourd'hui, nous allons parler du personnage de Jason dans le livre « Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne ». Un personnage essentiel et très important dans le roman écrit par Jérôme Leroy. On pourra se demander quel rôle joue le personnage de Jason.
On est actuellement en 2069, le monde est rétabli. Jason est un jeune lycéen de 17 ans qui habite à Rouen, capitale de la Fédération française. Il est victime d'une malformation à la naissance suite aux radiations de la décennie terrible. Jason est opposé au régime actuel de la Fédération, c'est un zop. Il adore lire des poèmes et fait partie du gang Nerval, nom tiré de son poète préféré Gérard de Nerval.
Pourquoi fait-il partie de l'histoire, à votre avis ?
Ce personnage rend cette intrigue palpitante et plus joyeuse grâce à sa relation avec Ada, jeune fille du même âge et son amour de jeunesse. Il suit Ada dans sa fuite contre l'exécution d'un malfaisant et vont au Portugal pour y vivre plus libre et plus heureux.
À la place de Jason, auriez-vous suivi Ada dans sa fuite à l'étranger?
Nous sommes de retour en studio avec Monsieur Leroy. Pourquoi avez-vous choisi de faire un conflit mère-fille?
Parce que c'est pas tant le conflit mère-fille qui m'intéressait que le fait que, plus généralement, un conflit de génération entre un conflit de génération qui est pas seulement lié au fait qu'on a souvent, on peut souvent rentrer en conflit à un moment de sa vie, notamment l'adolescence ou la fin de l'adolescence, avec les valeurs familiales. Mais c'est pas seulement ça, c'est parce que au-delà du conflit mère-fille entre Ada et sa mère, c'est un conflit de vision de la société telle qu'elle est. Et Ada s'aperçoit en fait que sa mère a peut-être oublié et a sûrement oublié l'idéal de départ de la fédération de la fédération européenne pour sa propre carrière. En tout cas, qu'elle trouve que tous les moyens sont bons. Alors qu'Ada estime, elle, en s'apercevant qu'elle a été tirée au sort pour exécuter quelqu'un, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, en tout cas, dans cette société. Donc le conflit mère-fille, c'est aussi, c'est un conflit mère-fille classique, j'allais dire, mais c'est aussi, en même temps, un conflit qui recouvre vraiment deux visions du monde complètement différentes.
Pourquoi avoir choisi le Portugal comme synonyme de liberté ?
Oui, enfin, c'est à peu près, on estime que c'est au bout de la, parce que au bout de cette fédération européenne, qu'il y a une zone qui correspond à peu près à l'ancien Portugal et où se serait installée, se serait créée une forme de société qui s'appelle la douceur. Pourquoi j'ai choisi le Portugal ? Pour tout simplement pour des raisons, alors là, pour le coup, biographiques, qui sont que j'ai encore. De la famille au Portugal et que c'est un pays que je connais bien et que c'est un pays que je trouve à la fois géographique pour des raisons de climat, pour des raisons d'histoire aussi, de son histoire comme pays, un pays qui a souvent est associé à une forme de douceur. Voilà, de douceur même dans les rapports humains.
Merci.
Tout de suite, retrouvons Ezio, Mohamed, Henrik et Raphaël pour nous parler de l'organisation politique dans ce livre.
Nous allons vous parler de l'organisation politique dans le livre de Jérôme Leroy, intitulé « Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne ». Dans cette histoire, tous les chefs sont des femmes, il n'y a presque pas de garçons au pouvoir.
Agnès Kerr est la présidente de la Fédération européenne. La peine de mort est présente dans ce régime. Quelqu'un est régulièrement tiré au sort pour tuer une personne qui a commis des fautes. La personne désignée doit appuyer sur un bouton et un produit est injecté au coupable. Si la personne désignée refuse, elle ira en prison.
Dans ce régime autoritaire et écologique, la viande est interdite de consommation. Pour maintenir un bon environnement et éviter la pollution, les voitures sont remplacées par des calèches et des vélos.
Il n'y a plus d'appareils électroniques et les douches, ce sont des particules jetées pour nettoyer les gens. Nous n'aurions pas aimé vivre à cette époque car les règles sont trop strictes. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Tout de suite, on va retrouver Luna pour la 7e question.
Pour quelle raison avoir choisi la France comme pays principal ?
Ça, c'est parce que, tout simplement, c'est quand même le pays que je connais le mieux, donc c'est quand même le plus facile à imaginer, pour moi en tout cas, dans le futur. J'ai choisi, je ne sais pas si c'est le prolongement de la question, mais j'ai choisi Rouen comme capitale pour une raison assez simple, c'est que même si je vis à Lille, je suis né et j'ai passé ma jeunesse à Rouen. Voilà.
Pourquoi avoir choisi d'écrire une dystopie ?
J'ai choisi d'écrire une dystopie parce que, comme à chaque fois qu'on écrit je pense que les auteurs qui écrivent des dystopies, en fait, ce ne sont pas des auteurs pessimistes, ce sont des auteurs inquiets. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que vouloir écrire une société qui tourne mal, c'est pas être un prophète. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pas dit que ça allait se passer comme dans... Je ne dis pas que ça se passera comme dans l'histoire de la fille qui ne voulait tuer personne. Je dis simplement qu'il y a un risque, parce que toutes les dystopies que je connais, que j'ai lues, que j'ai pu aimer... et j'essaye de faire la même chose, sont des dystopies qui se construisent à partir de choses qui existent déjà aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple, par exemple, dehors. Vous savez, il y a des zones qui sont parfaitement administrées par la Fédération européenne, et puis il y a des zones où on ne peut pas prendre encore en charge tous les gens, donc qui sont dans le dehors, avec un D majuscule. Le dehors, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui avec... d'une part, certains de nos propres quartiers, même s'il n'y a pas encore de murs, et puis aussi avec toute cette population qu'on appelle les migrants et qui veulent essayer d'entrer tout simplement parce que chez eux, c'est devenu c'est devenu invivable. Donc voilà, en fait, tous les éléments du récit, je pourrais les prendre un par un et vous montrer que ce sont des choses qui sont déjà en germe aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se, c'est pas, c'est, ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer, ce que j'ai écrit dans l'histoire de la fille qui ne voulait tuer personne, mais ça veut dire que ça pourrait se passer si, bah, je ne sais pas si par exemple votre génération, à vous qui avez 15 ans, 16 ans, ne prend pas les choses un peu en main. À un moment donné, ne prend pas conscience que ce que peut-être ma génération a fait n'est pas l'idéal non plus. Et donc, il va falloir, voilà, c'est aussi une manière de dire, si vous ne voulez pas que ça arrive, eh bien, battez-vous pour que ça n'arrive pas.
Continuez de découvrir la dystopie de ce livre à travers cette nouvelle chronique.
Dans le livre de la fille qui ne voulait tuer personne, premièrement, on parle de dystopie car la société est complètement contrôlée et il n'y a plus de liberté et tout est surveillé. Ensuite, c'est une dystopie car les personnages vivent dans un monde où tout est strict et on ne peut pas être soi-même. Les gens sont manipulés et les gouvernements décident de tout. C'est un peu comme une sorte de dystopie car il n'y a qu'un seul chef qui dispose tous les pouvoirs et elle est sous l'emprise du peuple.
Dans la dystopie, nous y trouvons aussi le dehors avec le bazar, les maladies. Il y a de nombreux enfants et de familles de l'autre côté du mur en mauvais état à cause des maladies qui les ont infectés. Le chaos et les cris sont présents partout avec les policiers qui sèment la pagaille. La végétation est absente. Enfin, perte d'humanité. Dans ce monde dystopique, l'empathie et la compassion sont perçues comme des faiblesses. Berthe, par exemple, qui était un zop, c'est-à-dire quelqu'un qui est contre le régime politique, refusant de tuer volontairement, incarne une forme de résistance à cette déshumanisation.
Et vous, vous verrez-vous là en 2069 au milieu de cette loi ?
On va parler maintenant de votre parcours d'écrivain.
Bonjour.
Bonjour.
Quels écrivains vous ont le plus inspiré ?
Je vais vous répondre à la question, mais je voulais juste un petit peu nuancer sur ce qui a été dit dans la précédente chronique sur l'aspect dystopique de la société de la Fédération européenne. C'est en train de devenir une dystopie. C'est pas vrai de dire que c'est une dystopie complète. Il y a des marges de liberté, elle a des aspects très positifs, cette société. Il y a beaucoup plus d'égalité. Enfin, pour ceux qui vivent à l'intérieur, qui ne sont pas dans le dehors, il y a une forme de respect, de non-violence aussi. Et il n'y a pas un contrôle complet, total. C'était juste pour nuancer un petit peu. Et justement, bah, parmi les écrivains qui m'ont influencé, il y a quelqu'un comme George Orwell, dont j'ai déjà parlé, qui lui, pour le coup, a vraiment créé une dystopie au sens plein, propre. C'est même peut-être le premier, on appelait encore ça une contre-utopie, qui est alors là, pour le coup, le monde de Big Brother, dans 1984, c'est vraiment un monde totalitaire. Ce que n'est pas, à mon avis, la Fédération européenne encore, dans le roman. Et puis les autres écrivains qui m'ont beaucoup influencé, moi, il y a quelqu'un comme... je ne vais pas tous les citer, parce que je vais citer ceux qui sont plutôt en rapport avec l'histoire de la fille qui voulait tuer personne. Mais par exemple, comme pour le personnage de Jason... Pour moi, la poésie a joué un rôle très important. Nerval fait partie de mes poètes préférés, avec Guillaume Apollinaire, avec Aragon, avec Rimbaud, bien sûr. Ce dont je pourrais vous parler aussi, c'est sur ceux qui savent, j'aimerais arriver à leur hauteur. Enfin, ça ne sera jamais le cas, mais ceux qui savent vraiment raconter des histoires et de le faire de manière impressionnante, il y a un Français du 19e siècle qui s'appelle Alexandre Dumas, vous savez, celui des Trois Mousquetaires, du Comte de Monte Cristo. Bon, bah, quand on le lit vraiment, on sait à quel point il peut raconter une histoire. Et je pourrais vous dire aujourd'hui aussi que tout auteur qui s'essaye à la dystopie, au fantastique, à la science-fiction, à la peur, à la terreur, c'est peu aussi, mais aussi à l'adolescence d'ailleurs, c'est quelqu'un comme Stephen King qui m'a énormément influencé, qui d'une certaine manière m'influence toujours et que peut-être certains d'entre vous ont déjà assidûment pratiqué.
Merci.
Parce que j'ai à peu près lu mes premiers Stephen King à votre âge également. Voilà.
Avez-vous déjà songé d'arrêter l'écriture ? Si oui, pourquoi ?
Non, jamais. Non, jamais. J'ai jamais songé à arrêter d'écrire. J'ai commencé à écrire finalement très très tôt. Parce que j'aimais ça, parce que en fait c'est parce que j'ai commencé à écrire parce que j'aimais lire et que je me souviens très bien par exemple en quatrième où on étudiait et on étudie toujours d'ailleurs la littérature fantastique, le fantastique. Eh bien j'ai commencé à écrire et des nouvelles fantastiques sur des cahiers. Voilà, j'avais 13-14 ans et puis ça ne s'est jamais arrêté depuis. Et non, je n'ai jamais songé à arrêter d'écrire, de même que je n'ai jamais songé à arrêter de lire, parce que pour moi, les deux sont extrêmement liés.
Quel est le roman dont vous êtes le plus fier?
Alors, le roman, c'est comme les enfants ou les frères et sœurs, je n'ai pas de préféré. Donc voilà, je n'ai pas de préféré, il n'y en a pas qui me rendent plus fier que d'autres. Je les aime tous, pas parce que je suis content de moi, je les aime tous pour leurs qualités et leurs défauts. Donc, c'est très compliqué de demander à un écrivain quel roman il préfère. Peut-être qu'on fait plus attention, comme dans une famille ou dans une fratrie, on fait plus attention au petit dernier. Mais voilà, c'est tout. Mais sinon, non, il n'y en a pas qui me rendent plus fier. Et puis, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le mot fier qui me plairait le plus. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de savoir, par exemple, si j'ai réussi à toucher mon lecteur. C'est pas de l'ordre de la fierté, c'est de l'ordre de l'inquiétude. Et quand j'ai des retours favorables de la part des classes, de la part de la critique, de la part de, voilà, des éditeurs eux-mêmes, d'ailleurs, qui sont les premiers à lire le livre, je me dis, voilà, je suis content comme quelqu'un qui est content d'avoir accompli un travail et d'avoir été jusqu'au bout. Après, la fierté, c'est autre chose. Voilà.
Est-ce qu'un producteur vous a déjà contacté pour adapter un de vos livres en film?
Oui, il y a même eu... c'est arrivé plusieurs fois. Ça a été... Il y a un processus qui s'appelle... il y a un processus un peu compliqué. Ce n'est pas l'auteur qui choisit quoi que ce soit dans cette histoire-là. Il attend. Et donc, j'ai déjà eu un roman en quelque sorte adapté au cinéma. Alors, ce n'est pas spécialement un roman young adult, un roman jeunesse, comme celui que vous avez eu entre les mains. C'est un roman qui s'appelle Le Bloc, qui a été publié en 2011 et qui a été adapté. Enfin, en tout cas, certains personnages ont été repris et une nouvelle histoire a été coécrite. J'ai coécrit le scénario dans un film de 2017, un film sorti en 2017 de Lucas Bellevaux qui s'appelle Chez nous.
Quel style de roman aimez-vous écrire?
Alors, je sais pas si... En fait, quand je commence à écrire une histoire, quand j'ai envie d'écrire une histoire qui me tient à cœur, ou un problème qui me tient à cœur et qui devient une histoire, je ne me demande pas à l'avance si ça va être un roman noir, ou un roman policier, comme vous voulez, enfin pas comme vous voulez d'ailleurs, parce que j'écris plutôt du roman noir. Je ne me demande pas si ça va être un roman roman-roman, d'une certaine manière, ou si ça va être une histoire qui se... dans l'imaginaire. Dans une période, par exemple, une période du futur. Je ne me demande pas ça, en fait. J'écris l'histoire que j'ai envie d'écrire, et c'est après, d'une certaine manière, que les éditeurs... les libraires, les bibliothécaires, les médiathèques, etc., les classent dans un rayon particulier. Mais je n'écris pas en fonction du rayon particulier. Alors, c'est vrai, il se trouve que très majoritairement, en dehors de la poésie qui est quelque chose d'un peu particulier, mais les romans que j'écrive sont le plus souvent soit ce qu'on appelle les « mauvais genres », entre guillemets, c'est-à-dire... le roman policier, enfin le roman noir, la science-fiction, enfin, et moi ce que je préfère appeler l'anticipation, c'est autour de ça. Mais à mon avis, c'est lié au fait que ce qui m'intéresse, c'est de parler du monde qui est le nôtre et avec ses dysfonctionnements.
Avez-vous déjà écrit d'autres genres littéraires que des romans ?
Des nouvelles, mais enfin, j'allais dire, c'est du même ordre. Après, j'écris et j'ai toujours écrit et publié de la poésie. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que le personnage de Jason, c'est lié au fait, par exemple, le personnage de Jason, c'est lié au fait que je, comme lui, par exemple, je pense que la poésie est aussi un moyen de lutter contre, c'est pas seulement une activité, j'allais dire, lyrique, c'est aussi une activité politique, la poésie.
Pourquoi êtes-vous devenu écrivain ?
Je ne sais pas. Je sais que j'ai. Parce que la seule chose que je sais, c'est que j'ai toujours eu ce besoin. Et quand je dis toujours, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça remonte quand même pratiquement à, avec l'apprentissage de la lecture, en fait. Voilà. C'est compliqué comme question parce que. Je ne sais pas pourquoi on devient quelque chose. Même quand on me demandait vers 10 ans, 11 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je ne répondais pas astronaute, je répondais écrivain. Parce que ça me semblait ce qui donnait. J'ai toujours eu ce besoin de raconter des histoires. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'expression raconter des histoires, je le dis souvent, c'est que raconter des histoires, ça a deux sens en français. Et ça en dit beaucoup sur la littérature. Le premier sens, c'est le sens premier, propre, raconter des histoires, mais au sens figuré, ça peut vouloir aussi dire mentir. Voilà, parce que tous les écrivains sont un peu des menteurs. Moi compris, évidemment.
Avez-vous fait un autre métier ? Si oui, lequel ?
Oui, j'ai été longtemps professeur. J'ai toujours écrit, mais j'ai aussi... Avant de vivre complètement de ma plume, comme on dit, j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années.
Le futur que vous avez imaginé dans le livre, est-ce vraiment ce que vous pensez de l'avenir ?
Alors, non. C'est-à-dire que, en tout cas, j'espère que non. Je dis simplement que dans la plupart des romans que j'ai écrits, je pense à celui qui est arrivé juste après Histoire de la fille qui voulait tuer personne, qui s'appelle Fêlure bleue, et puis celui qui était juste avant, qui s'appelle Loup après tout, qui était une trilogie. À chaque fois, ça se passe dans un futur. À chaque fois, ça se passe dans un futur qui ne va pas bien, qui est soit une dystopie pour le coup, soit en voie de devenir une dystopie. Et c'est parce que ça, ce que je répète encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui m'inquiète en fait. Et je suis pas tout seul d'ailleurs. Hein. Et ça va mieux quand on essaye de, en tout cas pour moi, mais je pense en général pour tous les gens qui écrivent, peut-être même vous, dans votre rapport à l'écriture, ça permet de nommer les choses, essayer de les nommer, essayer de les raconter. C'est quelque chose qui peut déjà être un premier pas vers une forme de libération.
Merci.
Souhaitez-vous rester écrivain pour le reste de votre vie ?
Oui, ce que j'aimerais bien, c'est j'aimerais bien continuer à écrire jusqu'au bout. De toute façon, je vois pas tellement, je sais pas faire grand chose d'autre, et en plus, je sens que j'ai encore plein d'histoires. À raconter justement et à travers mes histoires plein de choses à essayer de transmettre. Alors c'est pas un message, moi j'ai pas de message, j'ai pas à vous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je peux simplement vous dire voilà comment je vois à travers des personnages, comment j'ai envie de vous raconter des choses sur la société dans laquelle on vit et sur ce que je trouve inquiétant dans cette société.
Êtes-vous en train d'écrire un autre livre ? Si oui, sur quel thème parle-t-il ?
Alors, je suis toujours en train d'écrire. Les écrivains en général n'aiment pas forcément raconter sur quoi ils travaillent, en tout cas moi pas trop, d'autres que je connais aussi, parce que c'est une espèce de superstition, hein, c'est de l'ordre de la superstition, mais voilà, moi pour aller vite, ça sera un livre qui, le prochain, sera un livre qui se passera, alors sera destiné à votre tranche d'âge, si je puis dire, même si, j'allais dire, il est lu, comme d'ailleurs Histoire de la fille qui veut tuer personne, c'est aussi un roman qui est lu par des adultes, parce que moi j'ai pas de sujet pour... les jeunes et des sujets pour les moins jeunes. Je pense que C'est uniquement la question du point de vue. C'est-à-dire que les personnages dans l'histoire de la fille qui ne voulait tuer personne, ils ont votre âge, voilà. Mais si j'avais pris le point de vue, je ne sais pas, de la mère de Clara, de la mère d'Ada, par exemple, ou d'un autre adulte, du grand-père, par exemple, eh ben ça aurait pu être aussi bien un roman adulte. Et d'ailleurs, là, encore une fois, la distinction est faible. Donc, le roman qui vient sera plutôt, aura des comme héros, des personnages qui ont votre âge, et qui eux aussi, qui alors ça se passera aujourd'hui en revanche, mais je vous en dirai pas plus. Voilà.
Avez-vous d'autres projets pour la suite? Si oui, lesquels?
Ah oui, déjà chaque chose en son temps. Après, j'aimerais bien. Non, c'est pas que j'aimerais bien. C'est en train de là aussi, je suis en train de commencer à réunir un peu de documentation, mais un nouveau roman d'ici 2 ans. Alors là, pour davantage un public davantage adulte, mais qu'on pourra quand même lire si on a 15 ou 16 ans et qu'on aime bien ce que j'écris. Voilà.
Ok, merci.
Je reste flou, mais c'est parce qu'encore une fois, il y a une espèce de superstition à parler de ce qui n'est pas là.
Merci Jérôme Leroy d'avoir été notre invité pour cette émission. Nous concluons l'émission avec 2 chroniques sur 2 autres livres sélectionnés au prix Thème Lire. On commence avec vous, Lina et Merlin. Vous nous parlez de Bretzelbreck.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler du livre Bretzelbreck écrit par Maël Dessart. Ce livre a fait partie du prix Thème Lire de 2024-2025. C'est un livre très intéressant qui nous permet de découvrir une nouvelle facette du monde de l'adolescence. Tout au long de ce livre, nous allons suivre l'histoire de Victoire, une fille âgée de 17 ans, qui semble paranoïaque et insociable. Dans ce livre, Victoire est accompagnée de Défaite, une petite voix imaginaire dans sa tête qui fait que de la rabaisser, ne voit que le mal et le mauvais côté des personnes. Défaite représente la paranoïa de Victoire. Un beau jour, les parents de Victoire décident de l'emmener dans les vendanges pendant les vacances d'été, ce qui va bouleverser sa vie.
Là-bas, elle y rencontrera Philippe, qui est le vigneron, sa fille Hélène, son fils Gaëtan, ainsi que Raymond, un retraité. Gaëtan est l'une des personnes qui gère les vendanges. Il a un rôle important dans l'histoire car il déteste ses anciens amis puisqu'ils ont causé la mort de son frère. Pour autant, il réussira à créer un lien fort avec Victoire. Au fur et à mesure de l'histoire, on voit Victoire combattre Défaite et gagner confiance en elle. Et vous, aimeriez-vous vivre la même expérience que Victoire dans les vendanges? Pour découvrir une vraie facette de l'adolescence, courez vite découvrir ce livre.
Merci Merlin. On conclut notre émission avec la chronique de Luna et Sarah Lise pour nous parler du livre « Ne vois-tu rien venir ?».
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du livre « Ne vois-tu rien venir ?» d'Amélie Antoine.
Le roman se déroule dans un collège entre Orlane, la nouvelle, et un groupe déjà bien soudé dirigé par Sarah.
L'histoire commence lors de la rentrée en 3e des personnages.
Au cours de l'intrigue, on peut suivre un chapitre sur 2 les points de vue de Sarah et Orlane entrecoupés des témoignages de leurs proches.
Au fil des chapitres, on se rend compte que Sarah fait semblant de vouloir devenir l'amie d'Orlane pour lui faire subir, en compagnie de sa bande, du harcèlement.
Comme par exemple, lors d'une après-midi ensemble, Sarah veut colorer les cheveux d'Orlane et elle finit par accepter, pensant qu'elle veut faire ça par gentillesse.
La conséquence étant que tout le monde au collège la surnomme le corbeau car ses cheveux blonds sont devenus noirs.
Ensuite, il y a aussi les appels nocturnes sur le téléphone fixe de sa maison, ce qui terrifie et dérange sa famille.
Pour finir, à la fin du livre, on constate 2 fins possibles, une tragique
et l'autre positive. C'est à nous de décider.
Et vous, comment auriez-vous réagi à la place d'Orlane ?
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. La remise du prix Thème Lire aura lieu le 10 juin à 14h au Théâtre de Laval.
Bonne journée à tous, merci Jérôme Leroy et à bientôt.
À bientôt.